Moi, je vais juste vous dire quelques mots sur cette séquence que nous avons eue à l'Assemblée plénière des évêques de France, qui s'est rassemblée quelques jours, là, presque 6 jours, à Lourdes, du 3 au 8 novembre, sur la préparation du synode que le pape a voulu convoquer sur ce thème des jeunes. Alors ça s'appelle exactement les jeunes, la foi, et le discernement des vocations. D'abord, je note évidemment combien les évêques sont un peu inquiets de rejoindre les jeunes. Donc c'est une sollicitude qui est très importante, parce que comme disait déjà Jean-Paul II depuis longtemps, et c'est pourquoi il avait inventé de manière tout à fait inspirée ces grandes journées mondiales de la jeunesse pour secouer un peu la jeunesse catholique du monde entier, et puis donner une visibilité aussi à cet élan de la jeunesse de l'Église. Je ne sais plus ce que je disais là. Oui, c'est ça. L'inquiétude des évêques de voir que les jeunes qui sont l'espérance de l'Église, qui sont l'avenir de l'Église, comme l'avenir de la société, ne sont quand même pas très présents dans les communautés chrétiennes de nos diocèses. C'est vrai que beaucoup de prêtres se lamentent de voir qu'il y a beaucoup de cheveux blancs, même si de temps en temps ils mettent une couleur, dans nos assemblées. Et aujourd'hui, c'est le forum de la pastorale des jeunes, donc c'est un format qui existe depuis quelques années, qui ne rassemble pas des centaines d'animateurs de notre diocèse. Heureusement qu'il y a un nombre de séminaristes qui vient grossir les rangs, mais c'est vrai que ça nous pose quand même une question. Savoir comment mobiliser les animateurs de jeunes et comment mobiliser les jeunes. Alors, c'est pourquoi ce synode vient certainement à point. Les jeunes, la foi et le discernement des vocations, c'est-à-dire prendre la question des jeunes dans leur rapport à la foi et dans leur rapport au discernement vocationnel, d'ailleurs qu'il ne faut pas limiter aux vocations sacerdotales et à la vie consacrée, même si c'est fondamental, c'est bien évident, mais à la vocation chrétienne dans son ensemble, comment discerner le projet de Dieu dans notre vie, comment discerner la volonté de Dieu dans notre vie. Donc c'est vrai que pour les évêques, c'est une belle occasion de susciter un nouvel élan au sein de l'Église. Et alors vous savez que depuis quelque temps, le pape a demandé que l'instrument de travail qui sera donné aux pères du synode pour guider leur réflexion soit préparé à partir d'un large questionnaire qui n'est pas seulement envoyé aux évêques, mais qui est envoyé à tous, à tout le peuple de Dieu, et en particulier quand il s'agit des jeunes dans le rapport à la foi au discernement des vocations, pour faire un état des lieux et savoir quels sont les défis qu'il faut relever aujourd'hui, et bien envoyé aux jeunes eux-mêmes. Alors c'est vrai qu'il y a eu un questionnaire qui a été largement distribué, et en fait je crois que c'est quand même très important. Je ne sais pas si on a suffisamment surfé sur cette occasion qui nous était donnée, on l'a fait quand même, on fait partie des 69 diocèses seulement sur 95 qui avons quand même répondu à cette question. Je crois que les réponses, il y a eu 115 réponses, 110 réponses à ce questionnaire en France, dont 69 venant des diocèses, 18 des communautés, 6 des mouvements et 15 de l'enseignement catholique. Donc on ne peut pas dire que c'est eu qu'on ait répondu en France avec un grand enthousiasme à ce questionnaire, et c'est un peu dommage, parce que ça permet quand même d'établir une radioscopie de cette jeunesse que nous essayons de rassembler, vaille que vaille, dans nos diocèses, même s'ils ne sont pas très nombreux. On dit qu'il y a aujourd'hui en France, puisque la tranche d'âge qui a été ciblée par le synode, c'est 16-29 ans. Je pense que c'est à peu près l'âge des JMJ, généralement. Il y a 11 millions de jeunes de 16 à 29 ans en France, ce qui n'est pas énorme sur 64 ou 5 ou 6 millions d'habitants. Bon, donc on est quand même, on le sait bien, dans un pays qui, comme la plupart des pays de notre vieille Europe, sont précisément en train de vieillir. Sur ces 11 millions de jeunes, il y en a quand même 53% qui disent avoir une religion. C'est beaucoup plus qu'en 2008, où on disait qu'il y en avait 32%. Vous voyez, on sent quand même qu'il y a dans la jeunesse française un regain religieux. Et il y en a parmi ces 11 millions de jeunes, 42%, je pense, qui se disent catholiques. 42% qui se disent catholiques. Ça ne veut pas dire qu'ils vont à la messe, ça ne veut pas dire qu'ils sont engagés dans des mouvements d'aumônerie ou autre, mais il y en a 42% qui se disent catholiques. Bon. Pourquoi le pape a-t-il... donc voilà, je dis, c'est très important ensuite de voir, en lisant les contributions qui ont été faites par ces diocèses, ces mouvements, l'enseignement catholique en France, de voir quelles sont les constantes qui reviennent. La première chose qui revient dans les contributions, c'est que les jeunes qui ne fréquentent pas nos assemblées, que nous ne rejoignons pas par nos diverses pastorales des jeunes, n'attendent rien de l'Église. Ça ne nous surprend pas. Hein. Ils n'attendent rien de l'Église. Par contre, les jeunes qui sont rejoints par nos pastorales des jeunes, eh bien, ils attendent quelque chose. Et ils expriment quelque chose de leurs attentes profondes. Et je trouve que c'est quand même important pour nous, plutôt que de faire des grands plans de pastorale des jeunes à partir de nos idées qui sont dans notre tête, même si elles peuvent être fondées, et elles seront quand même utiles pour voir où on veut conduire les jeunes par rapport à l'Évangile, c'est pas mal de partir aussi de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils eux-mêmes expriment, de leurs attentes profondes. Pas seulement de l'Église, mais aussi de leur foi et de Dieu, etc. Alors qu'est-ce qu'on retire de cette synthèse qui est assez, assez longue, hein, il y en a pas mal de pages, mais disons pour l'essentiel, ce qui ressort de ces contributions, c'est que les jeunes qui sont rejoints par l'Église plébiscitent les temps forts. Bon, ça, c'est pas nouveau, et on le comprend très bien. On voit le succès que nous avons au JMJ en général et dans des grands rassemblements. Nous, nous avons misé aussi dans notre diocèse pour que la pastorale des jeunes soit aussi structurée par des temps forts de rassemblements, alors depuis les rassemblements des 6e et des 5e qui montent un peu en puissance, les 4e, 3e, les lycéens, étudiants et jeunes pros, où là, ça stagne un peu quand même, il faut reconnaître. C'est là où il faut se dire, par rapport aux attentes de ces jeunes, et ça vaudrait peut-être la peine de refaire une radioscopie au sein même de notre diocèse, de manière encore plus approfondie, est-ce que ça répond complètement à ce que nous proposons dans ces rassemblements pour pouvoir attirer davantage et mobiliser davantage de jeunes. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que les grands pèlerinages, les grands rassemblements diocésains, nationaux, internationaux, sont plébiscités généralement par les jeunes. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres points qui apparaissent, et il semble que les jeunes portent en eux quatre désirs qui seraient à conjuguer dans nos propositions. Le premier désir qui apparaît de manière assez constante dans les contributions, c'est un désir d'intériorité. Vous voyez ? Quand on a peur de proposer des choses un peu trop spi, comme on dit, hein, à des jeunes, mais je l'ai vu d'ailleurs avec les plus jeunes, hein, on n'est pas dans la tranche d'âge des 16-29 ans, mais quand on voit les 4e, 3e, quand on leur propose quelque chose un peu plus spi, qui paraît complètement décalé par rapport à ce qu'ils vivent habituellement, ils rentrent dedans sans problème. Hein. J'ai vu l'an dernier cette journée un peu insolite, très spi, pour les 4e, 3e, avec une marche sans doute, hein, ils ne sont pas restés en méditation transcendantale pendant toute la journée, mais très orientés vers le chapelet, vers l'adoration, etc. Il y avait des jeunes en particulier qui ne fréquentaient pas l'Église, qui avaient été amenés par des copains, qui étaient très, 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 très frappés. Un gosse pas baptisé qui dit « Je me suis confessé, c'est génial ». Il a pas reçu l'absolution sans doute, mais il a pu parler, il a pu se livrer dans sa vie et dans ses grands désirs à un prêtre. Et pour lui, c'était l'essentiel de ce qu'il retenait de cette journée. Un enfant qui a demandé la confirmation dans une lettre qui me dit j'ai découvert Jésus dans l'adoration. Un jeune de 4e, hein, qui jouait avec ses copains par ailleurs. Voilà. Donc un désir d'intériorité. Alors dans ce désir d'intériorité, beaucoup citent le rassemblement de Thésée. Je me rappelle avoir participé aux journées internationales, aux journées européennes de Thésée à Rome, et j'ai été frappé des jeunes étudiants que j'avais accompagnés, de l'un d'eux qui me disait, qui était en école supérieure de commerce et compagnie, assez branché, agité, disons, dans sa vie, Et il m'avait dit, ce que j'ai le plus apprécié, c'est le silence. Dans un ritualisme qui, d'ailleurs, à Thésée, n'a pas changé quasiment depuis 40 ans, la manière de prier. Eh bien, il y a de plus en plus de jeunes qui profitent de cet espace de vie intérieure. Qui a besoin ensuite d'être, comment dire, inscrit dans la durée, dans l'accompagnement, dans la formation? C'est probable, mais là, il y a quelque chose qui dit, quelque chose de très important sur les attentes des jeunes. Voyez, beaucoup dans ces contributions parlent des écoles de prière, de plus en plus d'écoles de prière pour les jeunes, de la place de l'adoration eucharistique. Et ça, c'est vrai que l'adoration eucharistique prend beaucoup dans les grands rassemblements pour les jeunes. Bon, alors on sait de manière un peu emblématique les quelques minutes où il y a des centaines de milliers de jeunes au JMJ qui, devant le Saint-Sacrement, sont à genoux et font silence, comme ça. Au moins ceux qui sont les plus proches, mais ça peut faire quand même des centaines de milliers de personnes. Ça impressionne toujours. Je veux dire, de Benoît XVI, qui avait été très impressionné quand ça a été fait pour la première fois à Cologne, les premières JMJ qu'il a présidées. Et il est revenu toute l'année sur cette expérience de ces jeunes en silence, devant le Saint-Sacrement. Et on note aussi que dans beaucoup de contributions, beaucoup de propositions nouvelles qui sont faites, comme les pèlerinages, les PLVTT, les patronages, eh bien, les jeunes trouvent très importante cette place qui est donnée à la prière personnelle, à la méditation de la parole de Dieu, à la célébration de la messe, à l'adoration eucharistique. Voyez. Donc ça, c'est un des points, le premier point qui a été relevé dans cette synthèse des contributions françaises. Bon. Ensuite, il y a deux désirs qui s'interpellent, comme dit Nathalie Bécard, la responsable du service de la pastorale pour l'évangélisation des jeunes et les vocations. Donc deux autres désirs, un désir d'action et un désir de responsabilité qui vont ensemble. C'est-à-dire agir, et on trouve en effet pas mal de jeunes qui sont marqués par des expériences dans l'humanitaire ou le caritatif. Le nombre de jeunes qui partent par la DCC, par exemple, j'en ai un en face de moi là, par la DCC ou dans d'autres organismes qui veulent faire quelque chose pour les autres. Et la responsabilité, prendre une place, être acteur de la vie de la société, sans doute, mais aussi être acteur de la vie de l'Église. Et à travers ces deux désirs proviennent aussi d'une des constantes qu'on retrouve dans les contributions, c'est-à-dire le scoutisme, la place du scoutisme. On a noté qu'elle est présente dans toutes les contributions qui sont revenues de ce questionnaire, la place du scoutisme. Et c'est dans le scoutisme, sans doute, qu'on est le plus tourné vers cette pédagogie de l'action et de la responsabilité. Quel que soit le scoutisme, là, il y a toutes sortes de scoutisme chez nous. Voilà. Je vais vite, parce que je ne veux pas prendre trop de temps à Amaru. Cette place que les jeunes demandent dans l'Église aussi s'exprime à travers le service de l'autel, qui était souvent exprimé, à travers l'animation musicale de la liturgie. Je trouve que c'est très important, quand des jeunes peuvent se prendre en main avec quelques instruments de musique, et puis le chant, aussi évidemment rechercher la beauté, parce qu'en général, on recherche la beauté dans la liturgie. Voilà, donc ça, c'est les deux autres désirs pris en sandwich entre le désir d'intériorité et l'autre désir, un désir de vie communautaire, qui marque beaucoup les jeunes d'aujourd'hui. Dans cet individualisme qui isole beaucoup, eh bien, on sent qu'il y a un désir, chez ces jeunes qui sont rejoints par l'Église en tout cas, de trouver un lieu, un espace de vie conviviale, de vie communautaire. La multiplication des colloques pour les étudiants, par exemple, dans les villes universitaires, les foyers d'étudiants qui fleurissent un peu partout. Voilà, ça, c'était les quatre grands désirs qu'on retrouvait. Après, on sent dans les contributions que les jeunes interrogent les institutions, la famille, l'école, l'Église, évidemment, les institutions politiques, et souvent expriment que ces institutions ne leur inspirent plus confiance. Ce n'est pas trop étonnant dans notre monde d'aujourd'hui, où l'institution est souvent battue en brèche, mais aussi où l'institution est marquée par des gangrènes aussi, y compris l'Église, sans doute. Et à travers ça, à travers cette interrogation qui va jusqu'à la mise en doute de ces institutions, Beaucoup de jeunes expriment le besoin la question du comment construire son identité, comment parvenir à poser des choix clairs, comment unifier sa vie, comment donner un sens à son existence. Et on voit là que quand on interroge l'Église, on demande deux choses à l'Église, les jeunes en tout cas, ce qui ressort de ces contributions. D'abord, plus d'authenticité, plus de cohérence. Ça paraît tellement évident pour nous, hein, et nous qui sommes les piliers de cette institution, je pense aux évêques que nous sommes, ou les prêtres, les consacrés, les religieux, ce besoin de cohérence dont le monde a besoin et que les jeunes recherchent aussi chez nous. Oui. Ils sont très marqués, et on est tous très marqués, par tous ces manques de cohérence, ces contre-témoignages que l'on retrouve et qui sont évidemment médiatisés à outrance, hein, médiatisés à outrance, parce que ça ne dit pas la réalité de ce que vivent quand même les évêques, les prêtres et les consacrés, mais n'empêche que ça ajoute à ce doute et ça permet d'exprimer une chose essentielle qui est cette cohérence par rapport à l'Évangile que l'on attend de l'Église. Alors on attend une Église accueillante, on attend une Église fraternelle, joyeuse, ouverte à la société sans doute, mais on attend aussi chez les jeunes une Église décomplexée, ça revient assez souvent, vous voyez, qui n'a pas peur de sa tradition, qui donne des repères clairs, qui soit une Église phare, qui réponde aussi aux questions existentielles, y compris sociétales, que les hommes se posent aujourd'hui, et qui permettent aussi, et qui sont en quête de formation. Ces jeunes expriment le désir qu'ils ont de formation, pour avoir des repères plus clairs, afin de vivre leur foi dans un monde qui vit sans Dieu, dans un monde sécularisé. Dans un monde qui s'est habitué souvent, qui n'est pas tout négatif, d'ailleurs beaucoup de choses positives, hein, mais qui se construit souvent sans Dieu. Et beaucoup de jeunes attendent une formation, des repères clairs, pour pouvoir vivre en chrétien, de manière décomplexée, dans cette société sécularisée. Là, je vais un petit peu vite. Bon, après, on note dans ces contributions que les jeunes sont hyper connectés. Peut-être que c'est un peu le thème de cette journée que vous avez organisée, où les jeunes relèvent un hiatus important entre les jeunes pour lesquels ces nouveaux moyens de communication font partie de leur quotidien et les acteurs de la pastorale des jeunes qui parfois peinent à les intégrer, hein, en se disant mais peut-être qu'on pourrait utiliser davantage ces moyens de communiquer, ces nouvelles technologies qui mettent les uns les autres en réseau, hein, à profit pour pouvoir annoncer l'Évangile. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est bien ce que déjà Benoît XVI disait, en disant que le grand défi du XXIe siècle, c'était l'évangélisation du continent numérique. Hein, on voit que de plus en plus, les jeunes, dans cette culture très mondialisée, fluide, comme il est dit aussi dans ce rapport, sont plus issus d'un continent numérique un peu mondialisé que d'un terroir particulier, même si, heureusement, qu'il existe encore des personnes, des hommes, des jeunes, qui sont un peu reliés à leur terroir. Mais même reliés à leur terroir, leur culture est davantage celle du continent numérique que du village de Gaulois, d'irréductible, hein, qui résiste toujours à l'envahisseur. Et en même temps qu'il est dit que les jeunes sont hyper connectés, on voit dans ces contributions qu'on se pose quand même la question de l'utilisation de ces moyens, de la distance qu'il faut prendre par rapport à eux, et donc qui appelle à une formation aussi qui soit adaptée pour qu'ils puissent servir en effet d'outils d'évangélisation. Voilà, je vais m'arrêter pour l'instant là. Ça me semble quand même assez intéressant, parce que si l'instrument de travail sur lequel vont réfléchir les jeunes avec des auditeurs, je pense qu'il y aura aussi des jeunes qui sont présents, qui ont été choisis, est bâti aussi à partir de ce que les jeunes attendent, ça nous permettra peut-être de relever les vrais défis. Hein. Mais moi, je note, en tout cas pour notre pastoral des jeunes chez nous, d'abord je remercie la petite équipe de pastoral des jeunes, hein, donc l'abbé Emmerich qui en est la cheville ouvrière, l'abbé Sanche de Françu, l'abbé Amador, qui évidemment n'est pas là aujourd'hui parce que lui, il croule maintenant sous la responsabilité d'une paroisse, puisqu'il est en attente de son curé qui est en repos nécessaire pendant un certain temps. C'est sur lui que repose la paroisse Notre-Dame de Béarn dans l'Escar. Donc c'est quand même une grosse responsabilité, donc il ne peut plus être complètement présent. Laure Fontaine, en tant que responsable de l'aumônerie des étudiants de Pau, et puis Benoît Sinic, le directeur de notre maison Samuel. Donc ils font partie de cette petite équipe, et je les remercie d'abord de ce qu'ils font pour essayer d'apporter un nouvel élan. Hein. On a tous, dans un forum qui a été consacré aussi à la pastorale des jeunes, on a tous remarqué que si on était très fort pour les temps forts, pour des temps de mobilisation ponctuelle, par exemple à l'occasion de préparation de sacrements, ce qui manquait de plus en plus dans notre pastorale des jeunes, c'est le suivi, l'accompagnement. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les jeunes réclament aussi un accompagnement. En particulier, ils disent beaucoup qu'ils attendent d'avoir des prêtres qui soient disponibles et qui soient proches. C'est vrai qu'on en manque beaucoup, hein, et j'espère bien que les jeunes prêtres vont être un peu charpentés et pour essayer pour être ces accompagnateurs dont on a besoin. Parce que s'il n'y a pas d'accompagnement dans la durée, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de processus de croissance, hein, comme dit souvent le pape François. Hein. Le but de ce synode étant focaliser la pastorale des jeunes sur « Ah ben voilà, bienvenue !»« Ah ben voilà, voyez, je vois qu'il y a du monde, là. »« Bienvenue !» Je sais pas d'où vous arrivez, mais... « Saint-Palais, Anguietori !» Voilà, ce qui semble manquer le plus... C'est l'accompagnement des processus de croissance pour permettre à ces jeunes de rencontrer le Christ et de mettre leurs pas dans ses pas. C'est le but, en gros, du synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Permettre aux jeunes de rencontrer le Christ au sein de l'Église et de mettre leurs pas dans ses pas. Ce n'est pas seulement par des coups, hein, des projets ponctuels qu'on le fera, même si ça peut structurer un chemin. Ça fait des étapes, et puis ça galvanise, ça booste, hein, ça mobilise, et puis ça permet, à travers ce qui est proposé, de donner des éléments structurants d'une pastorale des jeunes. Mais comment on accompagne dans la durée? Alors c'est vrai qu'il y a des mouvements qui le font. On a parlé du scoutisme. C'est pas étonnant que le scoutisme fait encore recette aujourd'hui, parce qu'il y a tout un chemin de progression. Il y a tout un accompagnement des jeunes à travers leur croissance humaine et spirituelle, car les deux doivent aller ensemble. Hein. Ce que nous avons beaucoup réfléchi pendant cette assemblée plénière des évêques, et j'en parlerai plutôt aux séminaristes lundi prochain, sur la formation sacerdotale, est vrai aussi pour toute éducation aujourd'hui, et en particulier dans le pastoral des jeunes. Comment sommes-nous pas seulement des prestataires de services, mais comment ces animateurs que vous êtes, les prêtres, les consacrés, les laïcs que vous êtes et qui êtes engagés dans le pastoral des jeunes, dans l'animation de ces groupes de jeunes, eh bien, comment êtes-vous des éducateurs? Les éducateurs. Et ça s'apprend aussi, ça. Ça demande aussi une formation. Pour accompagner dans la durée. Voyez, pour permettre à des gens de partir d'un point et de progresser vers un autre. Et ça suppose un moment dans la durée, c'est ce qui manque le plus. Nos groupes d'aumônerie dans ce monde public diminuent. Hein, on est bien d'accord. Pour les 6e, 5e, on a encore. Et je sais combien c'est un point auquel nos animateurs s'accrochent. Des étapes sacramentelles qui permettent d'avoir quand même un programme, un parcours à leur faire pour atteindre ces lieux. Mais après, accueillir des jeunes, c'est bien. Leur permettre de grandir dans le vivre ensemble, c'est excellent. Mais qu'est-ce qu'on leur apportera, qu'est-ce qu'on a comme programme de formation pour les aider à rencontrer le Christ et mettre ses pas, leurs pas dans ses pas, voyez ? Ça, c'est une chose sur laquelle il faut vraiment réfléchir. Quel programme de formation, quel parcours de formation pour les jeunes, afin de répondre à toutes ces attentes et de satisfaire tous ces désirs. Voilà. Et je termine par cette petite proposition qui est faite par Mgr Nicolas Brouvet, évêque de Tarbes-Lourdes. Il propose que lorsque les jeunes vont aller à Lourdes, dans le cadre de pèlerinage, je pense par exemple pour nous au pèlerinage de l'âge bébé où il y a sans doute 200 jeunes qui participent comme hospitaliers, mais je pense qu'on devrait proposer aussi, et l'enseignement catholique pourrait l'entendre, à d'autres jeunes d'y participer aussi, même si ce n'est pas comme brancardier, pour qu'ils profitent de cet événement, hein, donc 3-4 jours, et qu'on organise aussi des choses pour eux pendant ces 3-4 jours à Lourdes. Je pense que ce serait intéressant au début de l'année. Et lui, il propose qu'il y ait des mini-assemblées synodales que l'on organise pendant une demi-journée avec les jeunes de nos diocèses dans l'hémicycle de Lourdes, où les évêques se rassemblent là pour l'assemblée plénière, et qu'on organise une séquence selon un format bien prévu qui ressemble le plus possible au synode des évêques sur ce thème donc des jeunes, de la foi et du discernement des vocations. Donc réunion dans l'hémicycle, un temps de prière, écoute de la parole de Dieu, petite lectio divina, et ensuite faire intervenir les uns et les autres sur un thème, prendre des contributions, noter des convictions ou des demandes, et puis ensuite on faire notre pain pour la pastorale des jeunes. Voilà ce que je voulais vous dire, et je laisse la place maintenant à l'invité du jour.
Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir synthétisé ce début de synode, parce que je refais un peu le calendrier simplement pour ceux qui n'y sont pas. On est encore au début, vraiment, c'est la préparation. Donc le premier questionnaire, c'est parti. Le deuxième questionnaire en parallèle, qui est en ligne, donc individuel, il court jusqu'au 30 novembre. Alors, on dit « Ah, c'est bientôt fini ». Non, pour les jeunes, c'est dans très longtemps, le 30 novembre. Donc on pourrait leur dire « c'est demain, pas de problème, ce soir, ils le font ». Par contre, c'est un gros investissement, ça demande du temps. Mais invitez-les, hein, entre 16 et 30 ans, et qu'ils aient la foi ou pas. C'est-à-dire même quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout, il sera peut-être content de se dire « tiens, le pape s'intéresse à ce que moi je pense ». Donc n'hésitez pas à leur en parler, et puis au printemps, il y aura cet Instrumentum Laboris qui va être fait à partir de la contribution de l'ensemble de la planète, et à l'automne, le synode, et dans la suite, on ne sait pas quand, l'exhortation du pape.